venus nombreux pour cette conférence de rentrée, au nom de Gérard Descamps, qui est le président de l'INMA, Marie-Hélène Frémont, qui en est la directrice générale, David Caméo, qui est le directeur général de cette maison. Et je remercie surtout Xavier Greff et Francesca Cominelli, qui nous ont fait le plaisir de venir inaugurer ce cycle avec cette première conférence sur les métiers d'art dans la société créative. On pourrait dire l'économie. Quel est l'objectif de ce cycle qui se déroulera en 5 conférences, essentiellement axées sur la thématique économie et innovation? C'est de faire un peu l'état des lieux des différentes connaissances sur cette question des rapports entre économie des métiers d'art et innovation, et de préparer les futures journées internationales d'études qui auront lieu à l'automne 2015 sur cette thématique et qui, elles, seront internationales. Donc, la prochaine conférence de novembre concernera l'innovation et l'interdisciplinarité. C'est le jeu, entre guillemets, de l'interdisciplinarité dans les métiers d'art et le rôle de cette interdisciplinarité dans l'innovation. La conférence de janvier concernera les nouveaux protocoles de recherche avec la présentation de quelques expériences dans ce sens. La conférence de mars, le printemps, concernera, elle, le numérique, l'introduction du numérique dans la production des professionnels des métiers d'art et dans la commercialisation aussi. Et nous conclurons le cycle provisoirement sur les rapports entre économie, innovation et entreprise métier d'art. Donc c'est tout un problème. Il est vrai que l'économie des métiers d'art nécessite une pensée complexe. Hein, c'est pas un phénomène simple à appréhender, comme vous le savez. Que d'autre part, je pense que Xavier Greff et Francesca le diront, les données statistiques sont lacunaire, mais je pense que des travaux vont être entrepris pour qu'on ait une meilleure vision, une meilleure connaissance scientifique de l'économie du secteur, et que cette économie est bien sûr pleine de paradoxes, hein, d'une image des métiers d'art relativement archaïque. Émerge maintenant, au contraire, une vision extrêmement prospective, novatrice, de ce secteur qui est vraiment à l'interface, on pourrait dire, d'une économie de la concurrence et d'une économie de la coopération, comme dirait Sénette. Et que les artisans d'art sont non seulement les artisans de production originale qui mobilisent la créativité, hein, faudra voir ce qu'on entend par là, mais inventent sans doute aussi avec d'autres un nouveau modèle social et économique. Intéressant, dont on ne perçoit pas encore assez ce qu'il pourra apporter à la société tout entière. Et donc, c'est cet aspect-là des métiers d'art qui, d'un certain côté, font partie de l'économie de la culture et de la création, comme dit l'UNESCO en 2009, font aussi partie des industries culturelles et créatives, comme le dit le Parlement européen en 2013, et contribue largement à la production d'une valeur ajoutée qui dépasse largement l'économie. Hein, bien sûr, cette valeur ajoutée porte aussi des aspects culturels et symboliques extrêmement forts. Donc, comment les métiers d'art, les professionnels des métiers d'art répondent à ces nouveaux défis de l'économie ? À la fois économie de la connaissance, mais aussi économie de la globalisation. Hein, donc, quand j'évoquais la pensée complexe pour approcher ce domaine, Xavier Greff et Francesca Cominelli vont nous montrer combien leurs recherches ont d'une part appréhendé la complexité de cette pensée de l'économie du secteur, et combien aussi leur contribution permet d'avancer dans la connaissance de cette économie. Merci.
Donc merci aussi au nom des arts décoratifs. Moi, je vais juste vous présenter brièvement afin que le public puisse vous resituer tous les deux s'il ne vous connaît pas encore. Donc vous, Xavier Greff, vous êtes professeur à l'Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Vous êtes également professeur associé à Tokyo et vous travaillez là-bas pour le ministère de la Culture. Et parmi vos nombreux ouvrages, on peut citer « L'artiste entreprise » paru en 2012 chez Dalloz. En 2003, « Art et artiste au miroir de l'économie » qui est paru aux éditions de l'UNESCO, et en 2007, à la documentation française « Artistes et marchés ». Vous, Francesca, donc vous avez fait votre thèse sous la direction de Xavier Greff. Elle portait sur l'économie du patrimoine immatériel, savoir-faire et métiers d'art en France. Et donc vous n'êtes pas une inconnue de l'INMA, puisque vous avez travaillé pour la CEMA en 2008, en participant à la première campagne d'inventaire du patrimoine immatériel en France. Et donc, après cette thèse, vous êtes actuellement en post-doctorat, et vous travaillez sur les aspects financiers de cette question, un post-doctorat donc avec la Banque européenne d'investissement. Donc encore merci, je vous laisse la parole.
Bon après-midi à tous et merci aux arts décoratifs et à l'INMA pour cette invitation. Donc le thème qu'on va traiter cet après-midi concerne les métiers d'art, mais surtout la place des métiers d'art dans une société créative. Donc sans doute cet aspect de la créativité est un aspect qui est central dans l'économie des métiers d'art. Et on trouve cette centralité aussi si on regarde la stratégie actuelle de l'Union européenne. Donc, c'est une stratégie qui porte sur trois priorités principales. La stratégie Europe 2020, ou Europe 2020, c'est une stratégie qui vise à faire de l'économie européenne une économie d'abord intelligente, c'est-à-dire une économie qui doit se développer, se fonder sur la croissance et l'innovation. Et dans ce sens, on verra que les métiers d'art ont un rôle à jouer pour faciliter et soutenir ce type de développement, dans le sens où les savoir-faire détenus par les maîtres d'art et les artisans sont un bagage de connaissances, de techniques qui peuvent sans doute contribuer à la créativité. Deuxième aspect important de cette stratégie concerne le fait qu'on vise une croissance, mais une croissance durable et soutenable à long terme. Et dans ce sens-là, on verra aussi que beaucoup de métiers d'art s'inscrivent dans cette perspective, dans le sens où ils utilisent des ressources naturelles et ils les utilisent dans un sens durable, et aussi ils sont en relation avec les territoires et les priorités de ces territoires. Et troisième aspect qui est intéressant dans cette stratégie est le fait qu'on vise une croissance qui soit inclusive. Et là aussi, on verra comment les métiers d'art peuvent contribuer à ça en développant le capital social des communautés et des personnes qui pratiquent ces métiers, à la fois des professionnels et des amateurs aussi. Donc, pour vous expliquer très rapidement comment est-ce qu'on va structurer cette intervention, elle sera structurée en quatre parties. Dans une première partie, on va vous donner quelques chiffres et quelques données qui nous permettent de décrire un petit peu le secteur. On verra aussi quelles sont les problématiques et les atouts qui sont liés aux recherches qui ont été menées jusqu'à aujourd'hui dans différents pays européens. Et ensuite, Xavier Greff vous parlera plus précisément de l'entreprise métier d'art aujourd'hui, quelles sont les problématiques de ces entreprises et quels sont les enjeux aussi qui sont liés à ces structures économiques. Et ensuite, je vous présenterai quelques exemples de développement local, donc d'intégration des entreprises métiers d'art dans des logiques de développement local. Et M. Greff, il conclura cette intervention en parlant du rôle des pouvoirs publics. Donc, comment est-ce que les pouvoirs publics peuvent soutenir ces démarches et les favoriser? Donc, en ce qui concerne les données du secteur, je vais vous présenter des données qui sont relatives à trois pays européens. D'abord, le cas de la France, que sans doute vous connaissez déjà, mais je vais juste rappeler quelques chiffres principaux. Ensuite, je vais vous parler du cas italien et je vais conclure avec le cas du Royaume-Uni. Donc, en ce qui concerne la France, il faut savoir que les chiffres relatifs au secteur du métier d'art en France sont des chiffres qui, en ce qui concerne la globalité du secteur, remontent plutôt à 2008. Et dans cette étude de 2008, on recense environ 38 000 entreprises dans le secteur des métiers d'art. Et aspect spécifique de ces entreprises est d'être des petites et moyennes entreprises. La grande majorité de ces entreprises sont en fait des petites et moyennes entreprises et le nombre des salariés du secteur s'élève à moins que 70 000 employés. Donc, ce qui est intéressant aussi de noter est que donc les métiers d'art en France sont définis très clairement par l'arrêté de 2003 du ministère des Petites et Moyennes Entreprises, du Commerce, de l'Artisanat et des Professions Libérales. Et donc, pour le recensement de ces entreprises, on peut s'appuyer sur un document législatif qui donne une définition précise des métiers d'art et aussi qui indique quels sont les métiers qu'on peut identifier, quels sont les secteurs dans lesquels ces métiers se développent. Ça, c'est intéressant parce que dans d'autres pays, il n'y a pas ce support législatif qui permet de reconnaître les entreprises et donc de faire des analyses spécifiques du secteur. Donc, ces chiffres dont je vous ai parlé sont des chiffres qui remontent plutôt à 2008, mais il y a eu, en 2013, une étude qui a été publiée par l'IGF et par le ministère de la Culture, qui porte le titre « L'apport de la culture à l'économie en France ». Donc, dans cette étude, on trouve aussi des indications qui nous permettent de faire des nouvelles évaluations du secteur des métiers d'art, mais le problème est que le secteur des métiers d'art n'est pas considéré comme un secteur dans sa globalité, mais on retrouve plutôt certains métiers dans les différents métiers d'art parmi les différentes activités qui sont identifiées dans l'étude. Donc dans l'étude, on trouve par exemple parmi les activités définie spécifiquement culturelle, la fabrication d'instruments de musique. On trouve parmi les activités qui sont indirectement culturelles la taille de pierre, le façonnage et tout ça. Et on trouve parmi les activités qui participent à l'attractivité et au rayonnement culturel de la France, d'autres métiers et d'autres activités qui font partie plutôt du secteur de la mode, du luxe, de la gastronomie et en général des arts décoratifs. Donc les chiffres qu'on peut tirer de cette étude sont des chiffres intéressants, mais en même temps sont des chiffres qui ne correspondent pas précisément au secteur du métier d'art et qui rendent donc très difficile toute comparaison avec les études qui ont été faites précédemment. Donc, je vais passer maintenant au cas italien. Pour le cas italien, on a aussi très peu d'études spécifiques sur le secteur. Une étude intéressante a été publiée en 2009 par la Confartigianato et le CNA. Et c'est une étude où on a recensé environ 195 000 entreprises dans le secteur des métiers d'art, ce qui est un nombre d'entreprises beaucoup plus important que celui qu'on retrouve dans les études françaises. Mais il faut noter que 70 000 entreprises appartiennent au secteur alimentaire, qui n'était pas considéré dans l'étude de 2008 de la France, et 35 000 entreprises appartiennent au secteur du prêt-à-porter. Donc on retrouve en réalité, si on considère ces différences, des chiffres qui sont à peu près comparables en Italie. Mais une approche très différente est celle du Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, il y a un organisme qui est le Craft Council, qui correspond un petit peu à l'INMA en France, et qui, depuis les années 90, a développé beaucoup d'études pour chercher à mesurer le poids économique de ce secteur. Les premières études s'appuyaient sur une définition de métier d'art qui est plutôt comparable à celle à la définition française, donc une définition fondée sur la notion de technique et de matière. Mais depuis 2000, le Craft Council a décidé de se focaliser pour le développement d'études dans le secteur que sur les artisans qui sont inscrits dans des bases de données publiques relatives à l'artisanat. Donc des artisans qui sont inscrits à des chambres des métiers, des syndicats, des associations reconnues par les pouvoirs publics. Donc à partir de ça, des études ont été faites pour mesurer le poids du secteur. Et une étude que je vais vous présenter rapidement est cette étude « Craft in an Age of Change ». C'est une étude qui a été publiée en 2012 et le titre est déjà intéressant parce qu'on voit que la perspective est vraiment de comprendre quelle est la place des métiers d'art dans une époque de changement, dans une époque dans nos sociétés contemporaines. Donc, dans cette étude, le nombre d'entreprises qui a été recensé s'élève à 23 050 entreprises. C'est un nombre qui est plutôt comparable au secteur des artistes plasticiens et des acteurs et musiciens au Royaume-Uni. Et ce qui est aussi intéressant est que dans cette étude, on ne cherche pas que simplement à mesurer le poids du secteur, mais on cherche aussi à comprendre quelles sont les dynamiques de ce secteur et comment est-ce que le secteur des métiers d'art s'inscrit dans la société actuelle, dans l'économie actuelle. Et la figure que vous voyez ici, c'est une figure qui explique quel est le profil des professionnels des métiers d'art aujourd'hui. Et donc, ce qui est décrit par cette figure est le fait que la majorité des professionnels du secteur aujourd'hui, c'est le 38,4%, c'est des professionnels qui ont reçu une formation au métier d'art et qui, depuis, ont continué leur carrière dans le secteur des métiers d'art. Mais vous voyez qu'il y a aussi toute une partie, c'est les professionnels que vous avez en bas de ce schéma, qui n'ont pas commencé leur carrière dans les métiers d'art, qui n'ont pas formé au départ au métier d'art, mais qui ont, se sont retournés vers ces métiers plus tard. Donc il y a plus que 40% de personnes qui travaillent aujourd'hui dans le secteur des métiers d'art qui sont des personnes qui ont fait des expériences de travail dans d'autres secteurs avant d'arriver au secteur des métiers d'art. Ce qui est intéressant parce que ça montre que c'est des métiers qui ont un intérêt aujourd'hui. Il y a beaucoup de personnes qui souhaitent se réorienter vers ces métiers et surtout ça pousse aussi à penser à des formations qui soient adaptées à ces personnes en reconversion professionnelle. Et ça, c'est en effet l'un des thématiques sur lesquelles le Craft Council travaille, donc la formation au métier d'art pour les personnes qui sont en reconversion professionnelle. Donc, un deuxième thème qui est traité dans le rapport dont je vous parle est relatif à l'innovation et aux nouvelles technologies. Et on a des données ici intéressantes qui montrent que le 30% des professionnels des métiers d'art utilisent des nouvelles technologies, surtout dans la phase de conception des produits. Donc, concevoir des nouveaux produits. Dans la phase de fabrication, les nouvelles technologies interviennent, mais de manière moins importante, et elles interviennent encore de manière un peu plus importante au niveau de la commercialisation des produits, du marketing et de la vente, par exemple, de produits en ligne. Et troisième figure que je souhaite commenter de cette étude, ça concerne l'inscription de ces métiers d'art dans le développement durable et donc le fait que les professionnels de métiers d'art au Royaume-Uni s'inquiètent de plus en plus aux questions relatives au développement durable. Donc il y avait des questions dans cette étude qui demandaient aux professionnels, par exemple, s'ils utilisaient des matériaux durables pour leur pratique, et le 50% des artisans a déclaré que oui, dans le choix des matériaux qu'ils utilisent, ils s'inquiètent aux questions environnementales et donc ils intègrent des matériaux qui sont conçus dans le respect de l'environnement. Il y a aussi une autre question qui concerne les fournisseurs. S'ils cherchent des fournisseurs qui sont proches de leurs ateliers pour réduire les coûts de transport, mais aussi les émissions qui sont causées par les transports. Et le 20% des artisans déclarent qu'ils cherchent des fournisseurs qui sont plus proches de leurs ateliers. Donc, vous voyez que cette question aussi reste une question, bien évidemment, à développer. Mais il y a une attention des professionnels des métiers d'art vis-à-vis de ces problématiques environnementales. Et voilà, maintenant je laisse la parole à Monsieur Greff qui va jeter un coup d'œil plus précis sur l'entreprise des métiers d'art aujourd'hui et donc sur cette réalité précise.
Bien, merci beaucoup. Bonsoir à tous. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais moi aussi remercier les organisateurs, donc l'Institut national des métiers d'art et le Musée des arts décoratifs pour leur invitation. Je voudrais aussi vous dire que ce que je vais faire maintenant, c'est pas du tout un discours académique, parce que j'ai eu la chance, d'ailleurs grâce à l'INMA, de suivre pendant 2 ans une action de l'Union européenne qui s'appelle InnoCraft. Donc, vous imaginez un peu, hein, Innovation et Craft, enfin, c'est le sabir européen. Et c'est donc un réseau qui relève d'un programme plus général qui s'appelle Interreg, donc qui est un peu sur les coopérations territoriales, et qui a fait travailler pendant 2 ans une vingtaine de collectivités locales, essentiellement des villes, des régions, quelquefois des institutions, mais à ce moment-là qui ont une assise territoriale assez marquée, sur justement les différents problèmes que rencontrent les métiers d'art aujourd'hui. Alors, ayant eu la chance d'assister aux différents séminaires et de pouvoir participer à cette synthèse, je vais évidemment m'en inspirer beaucoup pour aller un peu plus dans la logique des métiers d'art et essayer, au moins dans ce premier temps, de vous dire quels sont les défis qu'elles rencontrent et éventuellement quels sont les thèmes qui reviennent un peu de manière récurrente au sujet de leurs difficultés, des solutions, quelquefois des palliatifs, etc. Alors avant, j'aurais quand même commencé par 2 remarques peut-être un peu plus transversales sur les entreprises de métiers d'art. Ça précède la première diapositive, en quelque sorte. Non, on attend un instant. Merci. La première remarque, c'est que ce sont des entreprises qui fabriquent, si je peux dire, enfin, j'imagine que les mots peuvent choquer certains, mais bon, qui œuvrent, qui produisent des produits qui sont nouveaux. Ça, c'est très important. Au fond, on est dans le monde de ce qu'on appelle les produits culturels. Ça, c'est très clair. Parce que vous pourriez me dire, oui, mais il y a des artisans qui font toujours la même chose, etc. Bon, alors, ça, c'est peut-être vrai, je veux dire. À ceci près que ça peut quand même changer d'un jour à l'autre, je veux dire. Mais en plus, véritablement, quand on est dans la logique des métiers d'art, ce sont des produits nouveaux. Et d'emblée, il y a un grand défi économique pour eux. C'est que les gens qui sont susceptibles de les acheter, et ce qui est intéressant ici, c'est pas dire je vends, j'achète, j'ai pas le droit, etc. Non, mais c'est que simplement il faut trouver les ressources pour vivre en quelque sorte, eh bien ne connaissent pas nécessairement en quelque sorte la qualité de ces produits ou l'intérêt qu'ils vont retirer de leur détention, de leur usage, de leur consommation, etc. Et donc ça, c'est un premier problème qui est extrêmement délicat, en quelque sorte, qu'on rencontre à des échelles très variées, bien sûr, et une fois encore, avec des dimensions. Mais je vais vous le dire autrement, en économie, et je vais essayer de pas être du tout complexe, on définit toujours, quand on analyse le fonctionnement des marchés, en disant, ben voilà, les consommateurs ont une information parfaite. On utilise ce mot. C'est-à-dire qu'en gros, ils savent ce qu'ils vont acheter. En tout cas, plus exactement, ils savent l'utilité qu'ils vont en retirer et il suffit de payer le prix après. Alors, ils arbitrent, bien sûr, mais ils arbitrent essentiellement en fonction du prix. La difficulté pour ces produits, c'est qu'on ne connaît pas avant exactement la qualité du produit. On la connaîtra après. D'ailleurs, on utilise dans notre langage un mot, on dit c'est des biens d'expérience, c'est des biens qu'on connaît. Donc, on connaîtra exactement l'intérêt après en avoir fait l'expérience. Mais le problème qui est ici, c'est qu'évidemment, ça va devenir très compliqué pour les producteurs de vendre en quelque sorte ce type de produit. Et ils vont, et on va développer certains thèmes là de tout à l'heure, qui vont montrer comment on peut éventuellement résoudre cette difficulté. La seconde difficulté que je voudrais dire ici, c'est que parce que ce sont des produits qui sont nouveaux et qui sont créés, cette fois-ci je ne prends pas la perspective du consommateur mais celle du producteur, il y a à l'intérieur de la logique de leur production deux dynamiques qui peuvent s'allier mais qui peuvent aussi s'opposer. On pourrait dire qu'il y a une dynamique de création, de créativité, et puis aussi une dynamique qu'on pourrait appeler tout simplement de soutenabilité économique. C'est-à-dire que d'un côté, évidemment, on va faire un produit, mais il faut prendre le temps pour que le produit, ou le bien, ou l'œuvre, ou tout ce que vous voulez, corresponde à ce que l'on veut présenter, en quelque sorte. Et de l'autre côté, il faut payer les impôts, éventuellement les salaires pour ceux qui ont des employés, etc. Et même pour ceux qui n'ont pas d'employés, il faut vivre. Bon, et ces deux dynamiques ne s'inscrivent pas du tout dans les mêmes périodes, en quelque sorte. Alors ça, c'est vraiment très traditionnel dans l'économie de l'art, des biens artistiques, etc. Je ne peux pas insister longtemps là-dessus, si vous voulez, après. Mais là aussi, ça fait un défi, en quelque sorte, pour un certain nombre de producteurs. Et donc, en quelque sorte, l'entreprise de métier d'art, dès qu'elle naît, elle est fragile, hein, en quelque sorte. Elle va se ressentir, si vous voulez, de cette double difficulté. Bon, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas en sortir, mais ça veut dire qu'il va falloir l'affronter. Alors, maintenant, je vais prendre les problèmes en partant peut-être d'un point de vue alors un peu empirique, et puis en allant un peu en explorant tous les thèmes de la vie courante des entreprises et métiers d'art. Alors, d'abord, quels sont les handicaps que rencontrent ces entreprises au-delà de ce que je viens de dire? Donc, cette fois-ci, je m'appuie plutôt sur des données empiriques qui relèvent d'une étude qui avait été faite, mais il y a déjà presque 10 ans pour, alors, c'était la CEMA à ce moment-là, je crois, mais enfin, bon, ça devait être cela. Bon. La première chose, et d'ailleurs, Francesca l'a dit tout à l'heure, ce sont en général des petites, voire des très petites entreprises. Ce qui veut dire non seulement qu'elles ont des ressources limitées, mais ce qui veut dire aussi qu'il est très difficile de réunir dans une structure qui a une taille petite des compétences très variées dont on peut avoir besoin. Alors souvent, on rencontre, et parce qu'elles naissent de cela en général, parce que celui qui les anime est un producteur, est un homme du métier, en quelque sorte, enfin, pardon, du métier. Donc la dimension productive, la compétence productive est très présente. Mais les autres compétences qui sont souvent de plus en plus complexes, mais qui sont aussi de plus en plus nécessaires dans l'environnement actuel, on y reviendra un peu, sont beaucoup plus difficiles. Bon, par exemple, on voit traditionnellement un biais entre ce qu'on pourrait appeler la dimension productive et la dimension commerciale. Et souvent, évidemment, le centre de gravité de l'entreprise reporte beaucoup plus, ce n'est pas une critique d'ailleurs, sur la production que sur la commercialisation. Mais à partir du moment où il faut commercialiser, évidemment, ça devient beaucoup plus difficile en quelque sorte. En tout cas, on est moins armé. Alors on peut avoir le même problème sur d'autres aspects, sur la recherche de financement, etc. Mais ça, c'est vraiment une première difficulté et on va la rencontrer souvent. Un second thème sur lequel je voudrais insister tout de suite, c'est l'éloignement par rapport au marché. Alors ça, de manière un peu plus générale, je dirais, c'est à la fois le bon côté et le revers de la globalisation. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de l'expression de niche. C'est une expression elle est ancienne, bien sûr, mais elle n'est pas utilisée depuis si longtemps en économie. Mais l'idée qui est là, c'est de dire, au fond, même si vous avez une production très originale, en très petite quantité, il y a toujours au niveau mondial des gens qui vont vous l'acheter. C'est ce qu'on appelle la niche. Bon. Donc ça revient à dire, au fond, il suffit de sortir de votre environnement immédiat. Et là, on sort un peu de la vision peut-être la plus, je ne vais pas dire la plus traditionnelle, mais la plus stéréotypée. Alors cette fois-ci, je vais utiliser le mot artisanat, en quelque sorte. Hein. Et il suffit de savoir quel est le marché international, etc. Je me souviens dans les expériences que j'avais fait une fois auprès de l'INMA, d'une vendeuse de gants, d'une vendeuse, pardon, elle n'aimerait pas. Mais maintenant, elle est comment ça s'appelle? Elle est dans les 100 mètres d'art. Mais qui était donc là dans le midi, là, c'était à Millau, je crois, qui effectivement faisait des gants, et finalement, elle n'arrivait pas à les vendre, et puis tout d'un coup, ça a explosé parce qu'elle avait été amenée par les pouvoirs publics locaux, d'ailleurs, à la fois à des foires à New York et à Moscou. Donc on voit tout de suite, là, les niches étaient quasiment de taille gigantesque, finalement. Donc il y a bien des niches, mais en même temps, c'est difficile parce qu'elles sont de plus en plus loin et il faut y arriver. Une troisième difficulté, alors qui peut intervenir à tous les niveaux, d'ailleurs, de la vie ou du cycle de vie des métiers d'art, c'est le problème de l'accès au financement en rapport avec quand même une pratique des banques qui est très très pesante, qui est l'exigence de garantie financière. Bon, si vous voulez, j'espère que c'est pas complexe, quand une entreprise emprunte de l'argent, bon, elle peut, c'est pas drôle, hein, mais elle hypothèque. Donc on peut hypothéquer le bâtiment, on peut hypothéquer les machines, bon, etc. Un métier d'art, c'est très difficile d'hypothéquer. À moins qu'il ait déjà, je ne sais pas moi, des ressources foncières considérables, des stocks de matières premières qui se renouvellent régulièrement, des choses comme ça, c'est extrêmement difficile. Et souvent on le dit, mais ça peut peut-être vous sembler un peu compliqué, on dit, grâce à Dieu, l'esclavage étant fini depuis longtemps, comme vous savez, on ne peut pas hypothéquer son propre capital culturel, en quelque sorte. Donc on ne peut pas hypothéquer son propre savoir-faire. Or, le capital d'un métier d'art, c'est son savoir-faire, en quelque sorte. Quelque chose qui est indissociable de sa personne. Bon, donc ça aussi, c'est une difficulté, et ça va jouer, ça va jouer. Une autre difficulté, je vais accélérer, c'est la nécessité de formation et d'adaptation. Bon, on va y revenir plusieurs fois, ça a déjà été signalé par Francesca. Et enfin, alors ça va être un thème important, parce que je dois dire qu'au cours de la vie de ce réseau, donc dont je vous ai dit un mot, qui s'appelle InnoCraft, c'est le rapport entre les designers et les métiers d'art. Je vais le reprendre dans un instant, donc on va continuer. Alors, d'abord, quelle est la première difficulté? Je vais les prendre un peu dans l'ordre, ce qu'on pourrait appeler un cycle de vie du métier d'art. C'est d'entrer dans l'activité. Et là, j'utilise un terme qu'on adore en économie, mais qu'on utilise de manière très différente. On va dire, il y a des barrières à l'entrée. Les gens ne sont pas connus, les gens sont trop jeunes, les gens n'ont pas de capital. Vous pourriez me dire, mais aujourd'hui, je peux créer avec mon savoir-faire, mais ça, on peut le dire, bien sûr, mais il faut... À partir du moment où il faut le réaliser, j'allais dire l'implémenter, ça devient un peu plus difficile tout de suite, et on le voit. Donc là, il y a déjà un enjeu. Il y a une seconde difficulté qui va arriver, et là, bon, je devrais le dire plutôt à la fin, mais elle est présente, c'est que souvent, il y a beaucoup de dispositifs, contrairement à ce qu'on croit. Alors ça dépend des pays, bien sûr, ça dépend aussi des administrations, de la manière dont il y a des tutelles qui sont organisées. Je veux pas dire que c'est un désordre, mais c'est pas très clair, quelquefois, selon les pays. Mais il y a ce qu'on appelle les insiders et les outsiders, c'est-à-dire il y a ceux qui sont déjà en place et ceux qui arrivent. Et en général, on s'aperçoit que beaucoup des aides qui sont organisées vont aux insiders et pas aux outsiders. Bon, je me souviens, Stéphanie Gilles, qui est là, doit s'en souvenir, lorsqu'on avait interviewé deux villes qui faisaient partie du réseau Vilnius et Riga, où les villes avaient créé des espèces de vitrines au centre-ville pour que les artisans puissent exposer en quelque sorte leur production et avoir tout de suite un premier contact, j'allais dire, non seulement pour la reconnaissance, mais pour la vente des produits. On avait demandé, mais qui en profite le plus? Et évidemment, ceux qui en profitaient le plus, c'est pas ceux qui entraient dans le métier, mais ceux qui étaient déjà depuis l'âge moyen, c'était 40-45 ans. Donc ça vous donne une idée, c'était pas les nouveaux. Donc on voit bien cet aspect-là. Une autre difficulté, c'est les femmes, les immigrés et les jeunes. Alors là, je le dis tout de suite, parce que vous pouvez être étonné que j'arrive tout de suite avec ça. Mais évidemment, dans beaucoup de pays, ça dépend. Hein, c'est, on ne va pas raisonner de la même chose, de manière sur l'Île-de-France, c'est une région perdue de Roumanie. Dans beaucoup de pays, au fond, on se dit, et comme tout le monde fait son lobbying en disant « je suis un réservoir d'emploi, je peux créer de l'emploi », etc., eh bien on dit « pourquoi est-ce que par rapport à ces catégories qui sont souvent assez absentes, mais qui probablement n'ont aucune raison de ne pas avoir autant de compétences que d'autres, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas les attirer ?» Alors, il y a beaucoup de choses qui se font en Europe là-dessus. Je reviendrai, je vous citerai notamment une expérience qui n'est pas en Europe, enfin qui est en Europe, mais qui est bien plus proche, c'est Franciade, qui est près de la, donc qui est aux portes de Paris, donc dans le département de la Seine-Saint-Denis, et qui est souvent un des cas les plus extraordinaires. Mais il y a d'autres, j'ai cité ici tout de suite Régiofam, qui est entre l'Autriche et la Slovaquie, etc. Alors, quand on voit ce problème des barrières à l'entrée, la réponse la plus, je dirais, la plus traditionnelle, mais enfin bon, tout ça est relatif, enfin c'est pas pour ça que c'est faux, mais je veux dire, on peut en discuter, c'est de dire, bon, on va créer des pépinières, on va créer des écloseries, on va créer des lieux où on va accueillir, et on va au fond, bon, quelquefois on utilise le mot incubateur, qui bon, enfin écloserie, c'est à peu près la même chose, et on va laisser assez ces débutants, si je peux dire, le temps de résoudre leur premier problème, de pouvoir enfin entrer dans un projet, c'est-à-dire non, pas le non seulement le concevoir sous l'angle technique de la production, mais le réaliser. Et ça, c'est un cas de figure qui est utilisé partout en Europe. Hein. Là-dessus, il y a aucun doute. Avec cependant des formes assez différentes. Par exemple, si je prends la Finlande, où les gens sont assez éloignés les uns des autres, eh bien, ils ont créé quasiment des incubateurs digitaux, c'est-à-dire que on reste dans son coin, si je peux dire, mais on communique en permanence avec une plateforme, etc. Est-ce que ça suffit ou pas ? C'est pas évident. Bien. Pour revenir en France, il y avait eu une expérience que justement le réseau InnoCraft a expertisée, qui était l'école des Beaux-Arts de Reims. Alors, c'était pas l'école des Beaux-Arts, d'ailleurs, qu'il avait créé, mais c'était la ville de Reims, en quelque sorte, avec la chambre je crois que c'est la CCI. C'est pas la chambre de métier, ce qui posait un problème. Mais il y a toujours ces problèmes-là. Mais ils avaient justement créé une écloserie, justement à destination des élèves qui sortaient des écoles, soit de Beaux-Arts, soit de métiers d'art, pour leur donner une possibilité. Parce qu'on sait aussi que d'emblée, il faut que le projet ait une certaine valeur ajoutée. Donc il faut que potentiellement soutenir des projets qui, pas tout de suite, mais qui ont au moins une espérance de valeur relativement forte. En Italie, à Florence, j'y reviendrai souvent, ils ont fait ce qu'ils appellent Bottega Scuola. D'ailleurs, je crois que vous avez une photo. Hein, juste... Ah non, ça c'est Franciade. Donc il y a aussi Bottega Scuola, mais voilà. Où là, alors là, c'est plus, je dirais, c'est un peu différent de Reims, c'est pour ça qu'on la montre ici. C'est plus vis-à-vis, je dirais, d'étudiants qui sortent de formation professionnelle, en quelque sorte, etc. Donc partout, il y a énormément de structures de ce type. Enfin, partout, pas partout, mais dans beaucoup d'endroits, il y a des tentatives de ce type. Et c'est un peu la réponse la plus traditionnelle, en quelque sorte. Bon, alors, quelle est la difficulté qu'on a quand on regarde ? C'est pas que ça fonctionne pas, mais c'est deux choses. C'est que la première, c'est qu'il est très difficile quelquefois d'offrir à partir du même endroit des services de grande qualité dans des directions très variées. C'est-à-dire comment donner une bonne expertise technique à quelqu'un qui veut créer un produit, comment le faire aller vers des financements qui peuvent être assez spécialisés, comment régler des problèmes juridiques, etc. Donc ça, c'est un problème. Et souvent, on s'aperçoit que ces écloseries sont très bonnes dans un premier temps, en quelque sorte, mais qu'elles ne peuvent pas accompagner très longtemps les gens dans leur démarche. Et là, il faut d'autres relais, il faut d'autres, faut avoir accès à des compétences souvent extrêmement précises. La seconde difficulté que l'on rencontre, et que peut-être certains d'entre vous ont déjà ou vont rencontrer, c'est qu'évidemment, on ne peut pas y passer sa vie. Parce qu'elles sont financées par des fonds publics en général, soit quel que soit le pays, ou des fonds venant d'organisations consulaires, enfin, etc. Et souvent, l'enjeu, d'ailleurs, c'est quand même d'avoir un espace, donc d'éviter des frais de location. Et évidemment, au bout de 6 mois, d'un an, on va se dire, mais bon, c'est sympathique, mais peut-être qu'il faudrait faire rentrer d'autres gens, etc. Et on peut même, je ne veux pas trop en parler parce que ce n'est pas ce qu'il y a de plus passionnant, on peut se dire, mais est-ce qu'il n'y en a pas qui vont tirer ce qu'on appelle des effets d'aubaine de cette situation-là en restant plus qu'ils ne devraient, est-ce qu'il ne faudrait pas commencer à les faire payer? Alors, il y a des gens qui ont des systèmes qui lisent bien là, une montée en charge, mais c'est loin d'être évident. Hein, c'est loin d'être évident. Alors, deuxième point, le choix et la réalisation des produits. Bon, alors aujourd'hui, enfin je m'excuse, je vais le dire comme ça, mais je suis obligé d'aller un peu vite. Il y a évidemment, il n'y aurait rien de plus, j'ose pas dire de plus bête, mais donc je veux dire de plus banal, que de dire au fond, c'est des gens qui font un peu toujours la même chose, c'est quelque chose d'assez simple, etc. Donc c'est complètement faux. Il y a des concurrences extrêmes, même sur des produits qui étaient traditionnellement artisanaux, qu'à voir le textile, hein, avec, bon, etc. Et du côté, la nécessité d'innover est permanente, que ce soit une innovation sur le produit, sur le procédé, parce que là, c'est un peu le côté, bon, excusez-moi si vous n'aimez pas le terme, c'est le côté compétitivité qui va être présent. Et il y a aussi le côté innovant sur le rapport au territoire. Enfin, je pourrais prendre des exemples, si vous voulez, dans la discussion, mais qui viennent plus peut-être des métiers d'art agricole, à la limite. Mais là, il y a des très beaux exemples aussi. Mais de toute manière, on va en parler. Francesca va en parler tout à l'heure. Enfin, tout à l'heure, il faut que j'accélère. Bon. Là, ce que l'on voit, et le défi qui nous a vraiment, moi, m'a beaucoup marqué, je dois dire, j'ai beaucoup appris ça au cours des deux dernières années, c'est la confrontation entre métiers d'art et design. Bon, traditionnellement, on a un débat entre artistes et artisans. Bon, ça, c'est un débat très connu, enfin, très connu, oui, historique. Bon, il remonte à l'encyclopédie, alors, c'est pas nouveau, hein, bon. Mais assez connu, bon, ça se joue un peu sur le problème du nombre d'exemplaires, sur les droits de propriété intellectuelle, les copyrights, etc. Bon, aujourd'hui, on a un débat plus subtil, au fond. Pourquoi? Parce que beaucoup de pouvoirs publics, beaucoup d'organismes consulaires s'adressent aux métiers d'art en disant « c'est bien, mais il faut absolument innover ». Et il y a des gens dont, par définition, c'est le métier, en quelque sorte, ce sont les designers, au fond, qui évidemment sont plutôt sur la forme, je dirais, mais les artisans aussi, enfin traditionnellement, etc. Et alors, on voit partout des efforts de rapprochement, ou de plus exactement de mise en contact des designers et des métiers d'art. Et évidemment, ce n'est pas très commode, parce que vous imaginez bien, au fond, je ne vais pas vous dire, à la fin du 18e ou début du 19e, l'artisanat d'art s'est souvent créé en réaction contre l'entreprise manufacturière, enfin, arts and crafts, hein, je n'ai pas besoin de vous faire de dessin. Mais on pourrait dire, aujourd'hui, on a un peu les mêmes tensions, c'est-à-dire entre le designer et l'artisan, c'est-à-dire le designer qui a, je ne vais pas dire une vérité, mais qui a en tout cas une connaissance, alors là vraiment académique, mais qui n'est pas seulement qu'académique, bien sûr, mais qui vit de la connaissance en quelque sorte, et puis celui qui produit matériellement en quelque sorte. Alors quelquefois ça peut bien se passer, d'autres fois il y a des tensions. Et là je vous ai mis plusieurs expériences qui nous ont semblé très intéressantes. C'est Fuse en Irlande. Là, vous avez le logo. Donc, vous pouvez aller directement sur le site. On peut rentrer dans les détails après, si vous voulez. Et Design SOS Model en Finlande, où on a vu comment ces organismes... Alors, dans un cas, c'est le Craft Council of Ireland. Et dans l'autre cas, c'est plutôt une université, mais très liée à sa région, qui offre des services de design, etc. Un dernier point, et puis je continue, sur les labels. Bon. J'en parle ici, j'aurais pu en parler après, mais non, j'en parlerai à la fin parce que je prends trop de temps, je m'excuse. Bon, sur les défis financiers, je vais peut-être aller assez vite. Bon, je vais le résumer de la manière suivante, je ne vais pas suivre l'ordre de la... parce que je consomme trop de temps là. Qu'est-ce qui se passe? En gros, pour simplifier, on a deux grands types d'aides pour les métiers d'art. Et là, vraiment, je synthétise au niveau européen, si vous voulez. on a des aides directes qui sont sous forme de locaux, de mise à disposition de locaux. Je laisse de côté maintenant les écloseries, etc., qui sont des aides au développement, par exemple participer à des foires, à des salons, etc., qui sont quelquefois aussi, mais c'est toujours du côté un peu aide directe, qui sont ce qu'on appelle des bonifications de prêts. C'est-à-dire que, par exemple, si je suis maître d'art, je vais emprunter à la banque me dit c'est du 5%, mais la région ou l'État vous donne 2% au titre de bonification, donc vous ne payez plus que 5-2 ou 5-3, et voilà ce qui reste. Bon. Alors ça, c'est évidemment assez efficace, parce que ça résout tout de suite un problème, en quelque sorte. Mais ce que l'on constate, c'est que les pays se détournent de plus en plus de ces aides, soit parce qu'il y a des crises financières au niveau des États, soit aussi, ce qu'on oublie beaucoup, alors en France on oublie un peu les deux pour l'instant, mais on verra bien, il y a des crises financières au niveau des collectivités locales. Et comme souvent, ce sont les collectivités locales qui jouent le rôle majeur en faveur des maîtres d'art, eh bien, ça pose un problème, en quelque sorte. Et puis, il y a les aides indirectes. Alors, les aides indirectes, c'est essentiellement ce qu'on appelle les dépenses fiscales. C'est-à-dire que si vous réalisez un bénéfice, eh bien, vous avez un crédit qui fait que, par exemple, si je réalise, alors je vais prendre un chiffre, hein, 10 000 euros de bénéfice, ben, il se trouve que je ne paierai pas d'impôts parce que jusqu'à 15 000 euros de bénéfice, puisque j'appartiens à cette catégorie-là, je ne paye pas d'impôts. Alors ça, c'est évidemment très intéressant. Et celles-là, elles ne sont pas supprimées actuellement. Enfin, elles pourraient, vous avez un débat sur les niches fiscales, etc. Mais le problème, c'est que n'en bénéficient que ceux qui sont déjà bien en place, en quelque sorte. C'est-à-dire ceux qui, effectivement, réalisent déjà des bénéfices, en quelque sorte. Et là, c'est un gros problème. On n'est même pas sûr que ces aides indirectes vont continuer, d'ailleurs, parce que les problèmes financiers que rencontrent les États sont assez délicats. Mais ce dont on est sûr, par contre, c'est qu'il y a peu de maîtres d'art qui en bénéficient. Donc vous me direz, ben quoi, ben oui, ben ça c'est un peu le problème. Hein, c'est un peu le problème. Alors j'ai mis là, il y a toute une série de débats. Fonds publics comme levier, microcrédit, mécénat populaire. Si vous voulez, on y reviendra dans la discussion, mais là, je prends trop de temps. Bon, sur la commercialisation, je vais aller assez vite, peut-être, parce que c'est cette fois-ci quelque chose qui est vraiment bien connu et qui n'a pas tellement changé. Donc je reviens à ce que je disais au point de départ, bien sûr, ce déficit en matière de commercialisation et ces habitudes qu'ont pris les États et plutôt maintenant les collectivités locales pour aider à la participation aux foires, aux biennales, aux expositions, ou pour organiser des prix, ce qui est une autre manière de se faire connaître et après de réaliser un peu le même objectif. Je voulais juste vous citer ici, on pourrait vous en citer des tas, bien sûr, une initiative qui a été prise par la région de Toscane, Toscane, donc, qui a fait, à mon avis, quelque chose de très intéressant et de très ambitieux. Bon, en Toscane, ils ont beaucoup d'artisanat d'art sur l'ameublement, la décoration, etc. Et ils avaient un marché qui, potentiellement, est très, très intéressant pour eux, pour beaucoup de raisons. Ce sont les États-Unis. Le Canada, hein, ça va ensemble. Bon. Et donc, au lieu d'envoyer ou de laisser chaque artisan, en quelque sorte, organiser sa publicité, sa commercialisation, sa gestion de stock, son service après-vente, parce que maintenant, il faut, dans certains cas, du service après-vente. En général, c'est du remplacement pièce pour pièce, si je peux dire souvent, mais il faut le faire. Ils ont créé, alors il fallait les reins assez solides, mais c'est une région assez riche, ils ont créé une agence aux États-Unis qui représente simultanément tous les artisans, les maîtres d'art de la région Toscane qui souhaitent exporter aux États-Unis. Et ça marche très, très bien, je dois dire. Là, les premiers résultats qui ont été présentés montrent que ça marche très, très bien. Un autre point, c'est les réseaux et les districts. Je pense qu'elle a des choses, à mon avis, bien plus intéressantes à vous dire. Donc je vais raccourcir un peu, puis je me rattraperai sur la conclusion s'il reste du temps. Bon, alors, ça, c'est un thème qui est omniprésent, les réseaux et les districts. Et pourquoi ça vient? Parce qu'on sait que dans ce milieu, il y a toujours un mélange de coopération et de concurrence. La concurrence, on peut la comprendre, bien sûr. S'il y a plusieurs céramistes au même endroit, inévitablement, il y a un degré de concurrence. La coopération, elle vient de ce qu'il y a des savoir-faire, que chacun fait progresser ses savoir-faire en parallèle avec ceux des autres, en quelque sorte, qu'on peut mutualiser en commun certains coûts, par exemple pour aller sur des marchés étrangers, etc. Et donc, il y a un équilibre à trouver, en quelque sorte. Et évidemment, plus on est petit, plus on a besoin de cette coopération. Et on a donc beaucoup de ce mélange de coopération avec toujours un côté concurrence en aval, bien sûr. Et ce qui va faire la distinction entre le réseau et le district, c'est pas ça. C'est simplement que dans certains cas, on peut faire ces organisations en restant très éloignés les uns des autres, et que dans d'autres cas, le côté contiguïté territoriale est très important. Donc dans le premier cas, c'est plutôt ce qu'on appelle des réseaux, et dans le second cas, c'est plutôt ce qu'on appelle des districts. Voilà, c'est un peu terminologique, mais c'est... Alors, ça rejoint d'autres débats, etc. Alors par exemple, un cas très, très précis, c'est en Finlande, justement, j'ai déjà parlé de ces éloignements. Donc là, ils font des réseaux qui fonctionnent essentiellement par voie digitale. Ce sont quasiment des réseaux numérisés, en quelque sorte. Donc le côté contiguïté n'est pas très utilisé. Et je donne un autre cas qui est dans la banlieue de Barcelone, à Terrassa, donc dans la banlieue, qui est... Alors c'est un peu plus compliqué qu'un... Ça fonctionne comme un district, mais au départ, c'est une des grandes entreprises qui avait des ateliers un peu partout et qui ont... Qui étaient des ateliers de tissage qui sont remis en fonctionnement dans une logique artisanale. Avant, c'est dans la logique vraiment d'une grande entreprise, plutôt, comme il y avait de ces très grandes entreprises en Catalogne. Et ça leur a permis notamment de faire travailler des personnes handicapées, parce que justement, ces lieux étaient pratiquement dans la même ville ou dans la même conurbation, mais ils étaient séparés les uns des autres, et ça permettait de limiter en quelque sorte les déplacements. Et on a des mouvements du réseau au district, du district au réseau. Il y en a un qui me semble, je ne vais pas parler d'Yamakado parce que c'est peut-être un peu précis, et puis, mais il y en a un qui est très célèbre en France maintenant, c'est Maisenthal, qui était donc traditionnellement un lieu de verrerie, et qui est devenu un très grand, où il y avait plusieurs verreries, et qui est devenu, après une évolution assez longue d'ailleurs d'une vingtaine d'années, hein, donc les choses tombent pas du ciel, vous pouvez bien imaginer, véritablement un réseau très important de production de verres d'art, peut-être certains d'entre vous le connaissent. En plus, il y a un concours annuel sur les boules de sapin de Noël, enfin, qui est en verre, enfin, qui réunit 300 à 400 producteurs, enfin, chaque année, etc. Enfin, ça marche vraiment très, très bien. C'est très remarquable, je trouve. Quand on cherche des initiatives en France, je pense que celle-là est vraiment... Faut pas l'oublier, hein. Enfin, il y en a d'autres. Donc, voilà ce que je voulais dire. Bon, sur le problème de la transmission, je peux vous en parler. J'en dirai un mot peut-être à la fin. Et on va passer tout de suite au troisième thème.
Okay. Bon, donc, dont je vais parler maintenant concerne plutôt les dynamiques territoriales qui peuvent se développer à partir de ces entreprises. Et pour commencer, je tiens à souligner le fait que ces entreprises ne sont pas des unités productives isolées, mais au contraire, il s'agit d'entreprises qui sont enracinées souvent dans des territoires et qui tissent avec ces territoires des liens très importants et stables. Et cette image que vous voyez ici, c'est une image que j'ai élaborée dans le cadre de ma thèse, qui cherche à décrire celui que j'appelle l'écosystème des métiers d'art. Et donc, c'est l'ensemble d'éléments qui constituent cet écosystème. Et c'est dans cet écosystème que les entreprises s'intègrent et agissent. Donc, qu'est-ce qu'on trouve dans un écosystème des métiers d'art? C'est intéressant de voir qu'il n'y a pas que des éléments matériels, mais il y a aussi des éléments qui sont immatériels et qui sont justement les connaissances et le capital culturel de la communauté. Et surtout, il y a des ressources qui sont privées, qui sont celles qui sont détenues par l'artisan individuel, et des ressources qui sont au contraire communes et qui sont détenues par les communautés où la pratique du métier s'est développée au fil des siècles. Donc, si vous voulez regarder un petit peu plus dans les détails ce schéma, En bas, on a les éléments matériels. Sur la gauche, les éléments privés qui appartiennent aux artisans, qui sont plutôt leurs ateliers, les matières premières qu'ils utilisent, les outils, mais aussi leurs aptitudes physiques, les caractéristiques physiques qui leur permettent d'exercer un certain métier. Et parmi les éléments matériels, mais communs, on a les ressources infrastructurelles du territoire, les ressources culturelles, plutôt les musées, les structures culturelles, et les ressources naturelles qui caractérisent un territoire et qui ont permis souvent le développement de certains métiers dans ces territoires. Et dans la partie haute du schéma, on a les éléments qui sont immatériels. Donc sur la gauche, les éléments immatériels privés, comme les connaissances formelles et tacites, les aptitudes, le talent. Et du côté droite, on a au contraire les éléments immatériels et communs, qui sont par exemple le capital culturel et social de la communauté. Comment est-ce que... Bon, c'est inversé, mais vous vous êtes retrouvés, je pense. Donc, comment est-ce que les artisans, les entreprises artisanales se retrouvent dans ce schéma ? Ici, j'ai représenté l'artisan et je vois l'artisan comme l'individu qui peut aussi s'organiser en forme d'entreprise, qui est en mesure surtout de mobiliser les ressources privées et matérielles. Mais on peut aussi retrouver au niveau territorial des artistes qui, au contraire, ont un contrôle plus ponctuel sur les ressources immatérielles, donc les connaissances formelles et tacites, et que grâce à ces connaissances informelles, puissent aussi faire évoluer le métier et contribuer à l'innovation. Mais bien évidemment, même si souvent on cherche à séparer ces deux figures de l'artiste et de l'artisan, sans doute l'acteur qui mieux peut agir au niveau local et contribuer au maintien de cet écosystème est l'artiste-artisan qui a un contrôle plus complet de toutes ses ressources. Donc, pour passer à des exemples plus pratiques qui exemplifient un peu ce qu'on a dit jusqu'à là, je vais maintenant vous présenter quelques cas qui expliquent comment est-ce que ces artisans et ces entreprises agissent dans cet écosystème que je viens de décrire et surtout comment est-ce qu'ils contribuent aux stratégies économiques européennes dont on parlait au début de cette présentation. Donc un premier cas que je souhaite présenter est le cas de la fabrication des toits en chaume en Auvergne. C'est un cas, disons, d'artisanat très traditionnel, mais qui exemplifie certains des concepts dont on a parlé cet après-midi. Il s'agit d'un métier qui se fonde sur une matière première typique du territoire, qui est cultivée dans le territoire, qui est la paille, et sur des savoir-faire ancestraux qui sont enracinés dans cette région. L'objectif donc de ces savoir-faire est de fabriquer des toits en chaume qui sont typiques aussi de la région. Et l'intérêt de ce métier n'est pas seulement de contribuer à la création d'un paysage à la fois culturel et naturel, mais aussi l'intérêt c'est de créer des territoires qui sont attractifs d'abord pour les habitants et ensuite aussi pour les touristes et pour d'autres enjeux qui se développent autour du tourisme. Et si on reste toujours sur l'importance des métiers d'art en lien avec le paysage et le territoire et le développement durable, un autre cas intéressant est celui de la ville de Grasse, une ville que vous connaissez tous sans doute pour la fabrication des parfums et des essences. Et donc ce métier, cette technique se développe bien évidemment à relation à des ressources locales qui sont les plantes et les fleurs qui sont cultivées dans la région. Donc de plus en plus, la sauvegarde de ces métiers et leur transmission s'appuie aussi sur la possibilité de sauvegarder ce paysage, ces ressources naturelles et ceci dans un but aussi de maintien de la biodiversité. Cet aspect est intéressant parce que la ville de Grasse est aujourd'hui en train de préparer un dossier pour l'inscription du métier de parfumier sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Et dans ce dossier, une partie très importante est consacrée au lien avec le territoire et au fait que la pratique de ces métiers peut aussi contribuer à la biodiversité et à la diversité non seulement culturelle mais aussi naturelle du territoire. Et ensuite, un autre rôle très important qui est joué par les métiers d'art aujourd'hui, sans doute, est lié à leur contribution en termes de renforcement du capital social des villes et des villages et des territoires. Et dans ce sens, un cas intéressant est celui de la ville de Bruges, qui a développé pendant les dernières années un projet qui s'appelle Handmade in Bruges, où on a différents axes d'intervention, des axes qui sont consacrés aux professionnels des métiers d'art et donc des services qui sont consacrés aux entreprises métiers d'art, des services similaires à ceux dont M. Greff vient de vous parler. Mais une axe importante de ce projet est aussi consacré au renforcement du capital social, non seulement des relations entre les professionnels, mais surtout du capital social des habitants de la ville de Bruges. Donc des espaces ont été créés pour que les habitants de la ville puissent s'approcher des métiers d'art et pratiquer ces métiers, puissent rencontrer des professionnels et apprendre des techniques, puissent échanger entre eux leur travail. Et donc, ce projet part de la création d'espaces et ensuite s'appuie sur la mise en place d'initiatives qui favorisent la rencontre et l'échange de pratiques et d'expériences. Et un troisième aspect important qui souligne justement le rôle des métiers d'art dans l'économie actuelle est la contribution des métiers d'art à la créativité et à l'innovation. Quand on parle de créativité, on peut parler de manière traditionnelle de créativité comme de création de nouveaux produits. Et ici, j'ai choisi le cas d'une entreprise dans le Jura qui a su appliquer un savoir-faire ancien comme celui de la fabrication de jouets en bois à la création de nouveaux produits de design et plus liés à l'art de la table. Donc c'est une entreprise donc grâce à la collaboration avec des designers a réussi à utiliser des savoir-faire anciens pour créer des nouveaux produits qui répondent à une demande contemporaine. Mais la créativité peut aussi être exprimée grâce à des coopérations, à des échanges entre des secteurs différents. Donc la créativité des métiers d'art peut contribuer à la solution de problèmes et à trouver des solutions nouvelles dans des secteurs qui vont au-delà du secteur précis des métiers d'art. Et dans ce sens, le deuxième exemple que je souhaite vous présenter, c'est le cas d'un maître verrier en Angleterre qui a été sollicité par un hôpital pour fabriquer des mules pour le développement de certains organes. Donc c'était un problème la demande venait des professionnels de l'hôpital qui avaient besoin d'outils spécifiques et des moules spécifiques qu'ils n'étaient pas en mesure de fabriquer. Les industries du verre n'étaient pas non plus en mesure de répondre à une demande aussi spécifique que ça. Et cet artisan a été capable, grâce à ses connaissances de la matière et à ses techniques, de répondre de manière innovante à cette demande et de trouver une solution innovante à un problème contemporain. Donc c'est ça un peu l'enjeu des métiers d'art aujourd'hui, d'essayer de s'inscrire dans cette logique de créativité et d'innovation et de mettre ces savoir-faire qui ont été transmis au fil des siècles au service de l'économie contemporaine et en favorisant ainsi la créativité, non seulement dans le secteur des métiers d'art, mais aussi dans d'autres secteurs. Et donc là, je vais laisser la parole à M. Greff.
Bon, je vais raccourcir ce que je voulais vous dire, parce que juste un point sur la dernière diapositive, là, elle est intéressante, parce que là, c'est vraiment un maître d'art, en quelque sorte. Mais je vous signale que vous avez une expérience à Limoges qui est très importante. Mais là, évidemment, c'est plutôt des entreprises qui font exactement la même chose. Ça, c'est la reconversion, au fond... Enfin, le redéploiement d'un savoir traditionnel sur, évidemment, des objets tout à fait différents. Le grand exemple, d'ailleurs, en France, c'est quelque chose que peu de gens savent, enfin, certains doivent le savoir ici, c'est le moulin Richard Debat, je ne sais pas si vous le savez, parce que quand il y a eu le voyage d'Apollo, là, donc le premier sur la Lune, en quelque sorte, on avait besoin d'isolants dans la fusée, extraordinairement légers, et les Américains avaient fait faire un papier spécial au moulin Richard Debat. Donc, vous voyez que les produits peuvent même aller sur la Lune. Bon, c'est pas plus ou moins, mais enfin, c'est comme ça. Bon, alors, sur la conclusion, enfin, c'est un peu, on a vraiment été très consommateurs de votre temps, donc je vais raccourcir au maximum. Je voulais vous dire deux choses après, et pour terminer. Une première chose sur le rôle des pouvoirs publics. Mais ça, à la limite, j'ai presque envie de passer sous silence. Enfin, je prends deux minutes quand même. Bon, en gros, les pouvoirs centraux s'occupent d'une législation sur les marchés, sur les professions. C'est toujours comme ça. Et c'est plutôt aux pouvoirs locaux maintenant de faire marcher le système. C'est comme ça qu'on pourrait le dire. Donc, les pouvoirs nationaux, on n'a pas vu beaucoup d'exemples, on doit pouvoir en trouver bien sûr des cas exceptionnels, où les pouvoirs nationaux jouaient un rôle autre que de régulateur des marchés et du droit en quelque sorte. Bon. Si, un peu sur la formation quand même, parce que sur la formation, là vous avez une, non pas une concurrence, mais une superposition de réseaux de formation qui existent au niveau national et de réseaux de formation qui existent au niveau locaux. Bon, ça en général, c'est pas un débat. Enfin, il n'y a pas de conflit là-dessus, mais bon, il y en a qui ont tendance à évidemment l'oublier. Le risque, évidemment, qu'on a dans ce cas-là, c'est que chacun dit que c'est à l'autre de le faire. Mais enfin, bon, ça, c'est un débat assez traditionnel. Bon, alors, dans les pouvoirs locaux, ces pouvoirs locaux, ils ont des fonctions un peu importantes qui est... la protection du patrimoine immatériel, mais je vais revenir là-dessus. Non pas sous forme de droit de propriété intellectuelle, parce que ça, c'est quelque chose qui... on soulève un problème tout à fait considérable, mais qui va peut-être être soulevé un jour, hein, finalement, mais qui est plutôt les appellations... Enfin, ce que dans le monde agricole, on appelle les appellations d'origine contrôlée, alors qu'ils sont validées par l'État en France, mais qui, dans d'autres pays, ne disposent pas de ce dispositif national, ou plus généralement, ce que l'Organisation mondiale du commerce, aujourd'hui, appelle les appellations territoriales. Évidemment que ces appellations territoriales sont très utiles pour deux raisons. D'abord... Donc on fait des labels, vous en connaissez, bien sûr, il y en a qui sont régionaux, il y en a qui sont nationaux, etc. Et l'intérêt, c'est que pour les utilisateurs, c'est un repère, mais surtout pour les producteurs, ça peut être une garantie. C'est-à-dire que l'on sait que les autres producteurs qui participent au label et qui peuvent le mettre suivent les mêmes règles, en quelque sorte. Donc normalement, il n'y a pas de recherche d'effet d'aubaine de certains producteurs au détriment des autres. C'est-à-dire en disant, je fais le même produit, mais comme je le fais beaucoup plus mal ou à l'économie, je prends la place. Ce qui, évidemment, à la longue, vous savez, il y a une phrase célèbre au Moyen-Âge que certains d'entre vous connaissent, la mauvaise monnaie chasse la bonne. Ben, évidemment, c'est un peu le même problème ici. Donc, il faut, donc cette labellisation, moi, je crois, est quelque chose de très important. Selon les pays, il y a des réactions très différentes. Hein, donc... il y a même des cultures très différentes. Mais ça, c'est un problème important. Bon, je voudrais plutôt venir à la dernière diapositive, parce que celle-là, bon, qui est en rapport direct avec le réseau InnoCraft, mais qui est aussi en rapport direct avec ce que vous pouvez lire ou ne pas lire, en quelque sorte. C'est toujours l'idée, au fond, on peut faire une démonstration soit par les statistiques, soit par les cas. les études de cas. Bon, alors par les statistiques, on vous l'a dit, c'est quand même assez difficile. Et là, Francesca a surtout montré des statistiques descriptives, en quelque sorte. C'est pas sur les taux de rendement ou des choses comme ça, mais ça serait tout aussi complexe, sinon plus. Et sur les expériences, ben, c'est un peu ce qu'on appelle les success stories, les case studies. Est-ce que ça a marché à tel endroit? Ça va marcher à tel autre endroit? Est-ce qu'on peut importer ce qui est fait chez les Irlandais, chez les Italiens, etc. Alors, moi, je voudrais juste prendre le problème vraiment de manière la plus synthétique possible et de dire qu'il y a deux leçons qui se sont dégagées justement de cette expérience européenne, de cet observatoire vivant qui a duré 2 ans. Et il y en a 3 qui sont beaucoup plus négatives, en quelque sorte. Alors, la première, c'est que là où ça marche, c'est parce qu'on a réussi à inscrire l'artisanat et les métiers d'art au cœur des dynamiques de développement d'un territoire. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que quand on prend le problème de l'artisanat en soi ou des maîtres d'art en soi, on est très vite dans un petit ghetto, en quelque sorte, avec des tensions internes d'ailleurs qui peuvent être très fortes, rappelez-vous insider, outsider, et qui en plus ne provoqueront pas les efforts qu'il faut de la communauté, de la collectivité en termes d'attention de ressources financières. Par contre, là où on arrive à situer l'artisanat et les, je ne fais pas trop de séparation ici, et les maîtres d'art dans une logique où on montre qu'ils participent véritablement à ce que certains appellent aujourd'hui l'économie créative, c'est-à-dire que c'est tout aussi important que le digital, que les industries numériques, etc., même si ça n'a pas dans l'immédiat le même effet ou les mêmes tailles, là, ça changeait. On a eu un exemple, d'ailleurs, qui à mon avis est très intéressant. C'est une ville qui est dans le réseau, qui est la Budapest, hein, et l'organisme qui gère ces fonctions-là, la chambre de commerce, je crois que c'est une chambre de commerce, hein. C'est pas une chambre d'artisanat. Oui, c'est un syndicat d'entreprise. Et là, justement, ils ont dit, mais vous êtes une industrie créative comme les autres. Vous n'êtes pas du tout à part. Vous devez être considéré, placé. Alors, évidemment, c'est un peu compliqué pour 2 raisons. D'abord, parce qu'il faut... Il faut surmonter une image qui trop souvent est passéiste, mais les cas qui viennent d'être montrés vous ont sans doute fait sentir que ce n'est plus tellement le cas, hein, etc. Et puis aussi, ben, il faut que et ce n'est pas commode, que les gens acceptent d'entrer. C'est-à-dire que aussi les artisans et les maîtres d'art acceptent de rentrer dans cette logique. Et ce n'est pas évident, je veux dire, bon, quand on est formé pour une chose... c'est pas évident d'entrer dans une logique qui est assez qui peut interpeller, qui peut même gêner. Bon, deuxième chose, j'en ai dit un mot, c'est la continuité entre les métiers d'art, le design et l'économie créative. Là, c'est très important. Ça marche, mais ça marche pas de partout, et c'est un peu un problème. Alors, sur les difficultés, bon, il y en a une qui vous concerne pas, c'est évidemment la multiplication des degrés d'intervention sur ce secteur. Parce que quand on dit les collectivités locales, bon, alors en France, il y en a beaucoup, hein, il y a région, département, communauté de communes et ville. Donc, mais même quand c'est plus simple dans les autres pays, il y a aussi ces doubles emplois. Donc ça, c'est un problème. L'autre difficulté qu'on voit, c'est que quand même, et je me redis, donc il est temps que je termine, c'est le problème des insiders. C'est-à-dire que souvent, ce sont ceux qui sont déjà en place, qui se sont déjà installés. Je vais donner un exemple qui est quand même, à mon avis, très intéressant. Je suis pas sûr, d'ailleurs, Francesca sera complètement d'accord, mais c'est à Florence. Bon, enfin, les gens de Florence sont sûrement pas d'accord. Mais bon, ils ont fait des tas de salles d'exposition, etc. Mais quand on leur demande qui est dans ces salles, c'est toujours ceux qui... C'est déjà c'est pratiquement déjà des sociétés, enfin, mais comme elles sont très très bien placées, ben, ils s'organisent pour être, évidemment. Et un dernier point, alors ça c'est un peu nouveau, on n'en a pas beaucoup parlé peut-être jusqu'à présent, donc j'en dis un mot, c'est qu'on a constaté que dans beaucoup d'endroits, je ne veux pas dire de pays, mais d'endroits, au fond, on essayait de faire revivre les métiers d'art pour attirer les touristes. Dans beaucoup de villes, notamment. Dans beaucoup de villes, ça, c'est... Notamment, je pense à Riga, Vilnius. Bon, enfin, ce n'est pas les plus mauvais exemples, mais ce sont 2 villes qui se trouvent être patrimoine mondial. Mais bon, elles sont très isolées. Pas très isolées. On est un peu toujours, mais c'est pas évident d'y aller. Bon. Et donc, du coup, on place les aides que l'on va donner aux métiers d'art, la volonté de soutenir ce secteur, de l'aider, de le lancer, de le relancer, de tout ce que vous voulez, en liaison avec les impératifs du tourisme. Et ça, c'est assez gênant, parce qu'on s'aperçoit à ce moment-là que le côté innovant qu'on est en droit d'attendre des métiers d'art, pas qu'on est en droit d'attendre, mais qui doit être dans les métiers d'art, est souvent gommé au bénéfice des images les plus traditionnelles. Bon. Et ça, c'est pas très bon, je veux dire. C'est pas très bon parce que... la population locale, du coup, n'embraye pas toujours, je veux dire. Hein. Ça, c'est clair. Bon. Et puis, ce que je pense profondément, mais c'est que c'est comme à Paris, les petites tours Eiffel, elles viennent de Shanghai, enfin de la banlieue de Shanghai, elles viennent plus de... Bon, etc. Donc, il y a cet aspect. Mais c'est vraiment un milieu intéressant, hein, je ne vous cache pas. Je me permets de terminer là-dessus. Voilà.
Merci de vos interventions. Qui ont posé un certain nombre de données, soulevé des problèmes, remarqué les bonnes pratiques, les moins bonnes pratiques, et sans doute vous poser des questions. Je voulais avant remercier Sébastien, que je n'ai pas remercié, Sébastien Kéké, qui avec nous prépare et organise ces conférences. Alors ce qui a été dit soulève sans doute, ou alors demande de complément d'information. Ou alors un vrai débat. Deux jours de débat, dirais-je.
Est-ce que vous pourriez
Alors la transmission, c'est un sujet en soi. On fera, je pense, une rencontre sur la transmission. Je sais qu'il y a beaucoup d'enseignants et d'étudiants parmi vous. Mais vous l'avez évoqué, Xavier Greff. Mais c'est vrai que c'est énorme. Ça nous amènerait vraiment un débat passionnant, mais qu'il faut placer à un autre moment, je pense. Oui, oui. Vous l'avez ? Quand vous parlez transmission, c'est transmission des savoir-faire ou transmission de l'entreprise ? De l'entreprise. Transmission de l'entreprise.
Bon, moi, je parlais plutôt de la transmission des savoir-faire parce que j'en avais parlé au départ en présentant l'étude du Crafts Council. Et donc, en effet, on a parlé la semaine dernière avec une personne qui travaille au Crafts Council et qui montrait la difficulté de transmettre aujourd'hui ces savoir-faire. Vous, le changement du profil des personnes qui s'approchent à ces métiers. Et donc, au Royaume-Uni, le problème est que les formations de base commencent à manquer et on commence à développer de plus en plus des formations d'un niveau plus élevé pour répondre à une nouvelle demande. Et donc, il y a, disons, un déséquilibre qui se met en place entre les différents niveaux de formation. Mais sur l'entreprise,
je... Non, donc je répète pas ça parce que c'est dit. Hein. Ce que je voudrais dire, c'est que ce qu'on constate, c'est vraiment un survol, vu d'ensemble, c'est qu'il y a, comment dire, une ode à la transmission. De la part de tous les pouvoirs publics, alors quelquefois national, quelquefois locaux, etc. Mais c'est toujours envisagé, les dispositifs sont toujours mobilisés trop tard. Et ils sont toujours mobilisés au fond, au moment où c'est le maître d'art ferme, en quelque sorte. Et on n'arrive pas à le mobiliser suffisamment en amont, pour être sûr que la transmission s'effectue. Et ça rejoint évidemment ce que disait Francesca, c'est qu'en plus, enfin, je reviendrai là-dessus si vous voulez, c'est qu'en plus, on n'est plus dans le schéma de l'apprentissage. Bon, on peut le regretter, on peut trouver ça bien, mais c'est devenu, bon, sauf en Allemagne, en Autriche, un peu en Hongrie, etc. Mais c'est devenu quand même beaucoup plus marginal, si vous voulez. Donc ce n'est plus le système. Donc on s'adresse nécessairement à des jeunes, quand on veut chercher des jeunes qui ont un niveau d'éducation plus élevé. Ce qui pose un problème, parce qu'il faut qu'ils travaillent pendant un certain temps avec des gens qui n'ont pas nécessairement le même niveau d'éducation. Enfin, vous pouvez imaginer toutes les tensions qui vont en résulter. Une seconde difficulté qui arrive, qui d'ailleurs n'est pas propre au métier d'art, mais qui existe, qui n'est pas contradictoire avec ce qu'on a dit avant, c'est que souvent, le capital qui reste, c'est le lieu. Et quand il y a un atelier qui est bien placé dans une ville, ben on le vend. On ferme, on vend, ou les enfants vendent en quelque sorte, et après le problème de la transmission, il se pose plus.
Merci. Oui.
C'est pas général, hein, mais c'est fréquent. C'est très ambigu.
Oui, bonjour. J'aurais souhaité poser la question de l'intérêt de l'outil Internet pour la commercialisation des métiers d'art. Est-ce que, là, je sais que depuis quelques années, des sites internet se dédient à ça. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que quelqu'un qui s'installe aujourd'hui a intérêt à créer un site, à commercialiser sur internet, ou pas du tout, parce que le produit doit être touché, vu, etc.
Donc là, je vous renvoie déjà au site de l'INMA, hein, sur lequel il y a... les bonnes pages ou les bonnes feuilles, je ne sais pas, du rendez-vous qui a été fait sur la commercialisation. Il y a des, entre guillemets, une série de rendez-vous, il y en a deux ou trois par an, qui sont chaque fois sur un thème. Il y en a eu un sur vendre par le net, quelles expériences, quelles réussites et quels problèmes. Je ne sais pas si vous avez, vous...
Bon, sans doute, on a parlé de la nécessité de créer des niches pour ces métiers. Donc, le fait que ces niches, souvent, ne sont pas proches de l'artisan, mais elles se trouvent ailleurs, dans un autre État ou, en tout cas, dans un autre pays. Donc, ce que je pense est que l'outil Internet n'est pas suffisant pour la commercialisation des produits métiers d'art. Il faut qu'il y ait ce contact qui peut avoir lieu sur place, parfois. De plus en plus d'étrangers viennent en France et souhaitent visiter des entreprises, par exemple artisanales, et ne pas acheter tout de suite, mais peut-être plus tard. Ou les entreprises peuvent se déplacer sur des salons, des foires, pour faire connaître leurs produits. Mais je pense que l'outil Internet devient ensuite complémentaire. Donc, une fois que le produit est connu, il peut y avoir cette volonté d'acheter et... sans doute aujourd'hui, comme pour les autres produits, je pense qu'il est nécessaire aussi de développer cet outil. Comme il demande des compétences, des formations spécifiques, des investissements aussi, il est bien que les artisans puissent créer des réseaux et puissent faire marcher cette commercialisation en réseau et donc pas de manière centralisée sur une seule entreprise.
Oui, je voudrais vous répondre. Enfin, moi, il y a 2 ans, quand j'ai commencé à travailler là-dessus, moi, personnellement, je me disais, j'achèterai jamais un produit comme ça sur Internet. Jamais. Il faut le voir, il faut être sûr du coût, etc. Et en discutant avec un certain nombre de membres du réseau, notamment c'est intéressant, les Irlandais, les Finlandais, les Italiens aussi, ils disent, mais si, ça marche. Alors, est-ce que c'est un problème de culture? Est-ce que ça va venir? Mais pour compléter, si c'est sur Internet, il faut qu'il y ait un label. Et là, je renvoie au cas des Irlandais, le Craft Council of Ireland. D'une certaine manière, il labellise les produits. Il met son sceau. Et je pense que ça, évidemment, ça peut diminuer la réticence à acheter sur Internet. Donc on retrouve le problème de la labellisation. Et qui fait la labellisation, hein, parce que c'est pas la même chose si c'est les producteurs qui font une quasi-labellisation ou si c'est, par exemple, je reviens au cas de l'Irlande qui me paraît très bien, enfin très intéressant, le Craft Council, si c'est eux qui font la labellisation, parce que du coup ils contrôlent, hein, eux, ils peuvent pas s'amuser à ce que sous leur logo soient vendus des trucs.
Alors c'est vrai que on distingue plusieurs cas. Il y a des professionnels des métiers d'art qui ont conçu leur site avec l'aide de professionnels, pas n'importe lesquels, les professionnels de l'informatique. On se rend compte que ce sont généralement les insiders. Je pense à Nicolas Mariscal, par exemple, sur l'Orfèvre, Dinandi Orfèvre, sur la voûte du Viaduc des Arts. Lui, s'est créé son propre site et ça fonctionne bien. D'autres, il y a deux jeunes qui ont créé une entreprise privée qui propose à des artisans d'art, qu'elles, puisqu'il s'agit de deux filles, une d'école de commerce, une d'école d'arts appliqués, qui se constitue un portefeuille d'artisans avec une cohérence, soit de tendance, soit, nous on dit, mais il faut en mesurer très vite la limite, les métiers d'art concernent ce qui est sur soi, chez soi ou autour de soi. C'est-à-dire l'univers de la mode, l'univers de la déco et l'univers de l'espace public, on pourrait dire plus globalement. Et donc, certains de ces sites se sont constitués sur l'un de ces trois champs, bien qu'il faille prendre ces trois définitions avec beaucoup de précautions, parce que ça implique des choses pas toujours extraordinaires. Alors, il y a eu des tentatives. Nicolas, je ne sais pas si toi, tu peux dire des choses sur la commercialisation par Internet à partir du rendez-vous qui a été... Mais au-delà d'Internet, c'est bien le problème de... Comme disaient Xavier Greff et Francesca Cominelli, comment vendre ? Avec la question des niches. Hein, donc, il nous semble, mais ça c'est une question qui manque peut-être dans le circuit économique, un intermédiaire qui serait en gros le rôle de l'éditeur dans d'autres secteurs de la vie économique. Il manque sans doute aussi d'éditeurs dans le secteur des professionnels des métiers d'art. Il y en a quelques-uns qui sollicitent des artisans, des professionnels des métiers d'art, soit qu'ils vendent ce qu'ils ont produit, soit qu'ils commandent, alors avec un designer souvent, des produits dont ils estiment qu'il y a un marché pour les vendre. Il y en a quelques-uns.
Peut-être aussi des agents.
Je dirais aussi, pour reprendre ce qu'a dit Xavier Greff, le principal problème des artisans d'art, c'est effectivement d'être loin du marché. Très clairement. Et puis c'est de plus en plus vrai puisqu'ils sont poussés en dehors des villes à cause des baux et du foncier. Autant il y a 2 ans, les sites et le net n'étaient vraiment pas du tout une réponse adaptée, autant on voit de plus en plus sous des formes diverses qui s'adaptent aussi à la production et au marché auquel ils s'adressent. Parce que quand on est ébéniste dans une région, dans un territoire très enclavé, on ne s'adresse pas forcément au même public que lorsqu'on est verrier et qu'on fait des objets d'exception qui sont destinés pratiquement à l'étranger. Donc c'est vrai que le net permet quand même de répondre pour l'un, je parle de l'ébéniste, à être localisé dans son territoire. C'est-à-dire que qui sait, vous êtes en Normandie, vous avez besoin d'un ébéniste, où le trouver aujourd'hui ? C'est pas évident. Donc nous, on a un annuaire officiel des métiers d'art, on sait qu'il est de plus en plus consulté. C'est en croissance, ces consultations, ce qui veut dire qu'il y a une demande. On cherche, il y a un problème de rencontre entre l'acheteur et le producteur. Donc le net est un moyen effectivement de mettre en contact très clairement celui qui cherche et celui qui cherche un client. Le client et le producteur. Et d'autre part, pour l'international et pour ceux qui font vraiment des objets d'exception, avec effectivement ce label, et je vous rejoins complètement, cette nécessité de faire quasiment des vitrines avec une rigueur et une exigence. Pour l'international, c'est aussi absolument nécessaire, parce que les étrangers ou leurs acheteurs, c'est-à-dire les architectes d'intérieur ou pour la mode, vont faire un repérage auparavant, et ils utilisent de plus en plus le net pour faire ce repérage. Après, ils vont voir. Mais c'est, avant de débouler dans l'atelier, avant d'aller voir, c'est une première identification, parce qu'ils sont cachés. Ils sont cachés, ils sont... les ateliers ne sont pas visibles, sauf à avoir une notoriété extrême, ce qui est rarement le cas. Donc c'est pour ça que je serais beaucoup plus positive qu'il y a 2 ans sur l'utilité d'utiliser vraiment cet outil.
Bon, je ne vais rien rajouter. Juste effectivement, vous inviter à reconsulter dans l'intégralité le rendez-vous d'INMA qui était consacré à ce thème. Non, le e-commerce, oui, mais à intégrer dans une démarche sans doute marketing plus globale de l'entreprise et pas déconnecter. Donc ça ne se fait pas n'importe comment. Il y a des outils, il y a des gens qui sont... Ce n'est pas la réponse à tout, mais c'est un outil. Et sans doute qu'il y a de nouvelles formes d'expérience marchande à inventer, y compris numérique. C'est ce que, en tout cas, Nelly Rodi, qui est assez connaisseur en la matière, nous avait pu conclure en fin de ce rendez-vous. Donc il y a encore de nouveaux modèles, sans doute, de mise en marché, de commercialisation des métiers d'art, qui passent par le numérique, mais pas que.
Merci Nicolas, qui est responsable du développement à l'INMA. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, madame.
Si on a encore un peu de temps, est-ce que vous pourriez nous parler des expériences de rapprochement des designers avec les artisans en Finlande ou en Irlande que vous avez citées ?
Non, mais on va rester en Irlande, c'est plus proche. Enfin, c'est un peu plus proche, pas tellement plus proche. L'idée est la suivante. C'est d'abord de donner... ça joue à 2 niveaux, je dirais, au niveau des gens qui sont déjà dans le métier ou au niveau des gens qui y entrent, en quelque sorte. Donc, au niveau des gens qui sont déjà dans le métier, c'est de leur donner la possibilité, ça leur est offert d'ailleurs, en tout cas un coût relativement, ils payent une partie mais pas la totalité, d'avoir l'expertise d'un designer. Bon. Et donc ça vient d'eux en quelque sorte, hein. On ne leur impose pas, hein. C'est s'ils veulent, ils ont l'expertise d'un designer. Et souvent d'ailleurs, ces expertises sont débattues collectivement. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs personnes qui demandent à plusieurs designers et chacun explique à l'autre, etc. Pour que ceux dont ce n'est pas en quelque sorte la demande précise puissent néanmoins bénéficier de cette culture, en quelque sorte. Donc ça, c'est vraiment le cas standard. Et en général, s'ils veulent après avoir quelque chose de plus précis, ça peut aller jusqu'à un partenariat avec le designer. Mais il y a des règles, hein, parce que on touche assez vite à des problèmes de propriété, enfin de marque et de tout. Eh bien, à ce moment-là, ils payent plus, si vous voulez. C'est-à-dire qu'en gros, la mise en contact et le premier service qui est rendu est financé en partie par l'organisation. Donc, en l'occurrence, c'est... Alors, je ne sais pas si c'est décentralisé à ce niveau-là, le Craft Council ou pas. Et en partie par le maître d'art. Mais s'il demande plus au-delà de ce qui est prévu dans le dispositif, c'est une espèce de première... Un premier rendu, en quelque sorte, première consultation. Là, il paye un peu plus, et puis, etc. Bon. Pour les jeunes, c'est un peu différent. Pour les jeunes, c'est un peu différent. Parce que là, ils sont formés, en quelque sorte. Ils bénéficient là véritablement, puisque par définition ils entrent, bon, ils n'ont pas nécessairement des projets, ils peuvent très vite se retrouver dans la seconde logique, mais la logique c'est plus une logique de formation en quelque sorte. C'est-à-dire qu'en gros, on leur, moi je ne suis pas designer, hein, ni maître d'art d'ailleurs, donc je suis très mal placé pour en parler, mais en gros on leur dit, voilà théoriquement quand vous allez envisager de faire un produit, Voilà les étapes qu'il faut absolument suivre. C'est un peu comme des guidelines qu'on leur explique en in vivo, en quelque sorte. C'est plutôt ça. Mais ils différencient effectivement selon que c'est... Alors là, c'est pas insider-outsider, là, c'est celui qui est déjà... qui est déjà en train de faire des projets, c'est là le clivage, hein, qui est déjà en train de faire des projets, qui en a déjà fait, etc., et pour qui c'est un peu un ressourcement, et puis ceux pour qui arrivent, en quelque sorte. Ceux qui arrivent. Mais ce qui m'a frappé, moi, beaucoup, c'est que, et je parle sous contrôle certains qui ont suivi ces expériences, c'est que c'est très fort, je veux dire. D'ailleurs, je vois dans ce réseau... À certains moments, le mot design était presque synonyme de maître d'art, bon, ce qui est quand même pas normal, je veux dire. Enfin, c'est pas normal parce qu'on voit qu'il y a, ça n'épuise pas le sujet et que ça peut créer des confusions. Voilà. On se disait, entre nous, soit dit, on se disait avec Francesca en filigrane, que quand vous nous parlez des questions de l'Internet, on se disait, et les imprimantes 3D.
Oui, oui, les imprimantes 3D, ça c'est une autre question. Ça sera une prochaine conférence. Oui, en termes de vocabulaire, c'est vrai qu'on fait toujours attention à essayer d'employer un lexique qui fasse à peu près unanimité. Donc, il y a les professionnels des métiers d'art. À l'intérieur, il y a les artisans d'art qui relèvent de la Chambre des métiers. Il peut y avoir des artistes dits libres qui relèvent plutôt de la Maison des artistes. Il peut y avoir des auto-entrepreneurs. Il peut y avoir des professions libérales. Hein. Il peut y avoir beaucoup de statuts. Mais les maîtres d'art, ce sont les 115, enfin 102 vivants maintenant, qui en France ont été nommés par les ministres de la culture successifs comme étant des artisans détenant un haut niveau de savoir-faire et qui l'ont transmis à un plus jeune, entre guillemets, élève, jeune, enfin, il doit avoir 5 ans d'expérience, pendant une durée de 3 ans au sein de son atelier. Après quoi, l'élève est censé soit reprendre l'activité du maître, son entreprise physiquement ou pas d'ailleurs. Soit là, on crée une... Là, vous avez un maître d'art, Gérard Descamps, il y en a peut-être d'autres dans la salle, mais qui est graveur et qui a transmis à son élève. Donc quand on dit maître d'art, on parle vraiment des 115 précisément. Voilà.
Vous avez compris qu'on ne l'a pas utilisé dans le même sens.
Vous ne l'aviez pas utilisé dans le même sens. Non. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres... Voilà, bah, il nous reste à remercier beaucoup. Il y a une question ? Oui.
Avez-vous connaissance de l'expérience de création collaborative dans le secteur de l'étudiant ?
Le 19 novembre. Oui, oui, bien sûr qu'on a l'expérience. Oui, à la prochaine conférence... On présentera le projet Art et Cité qui a fait travailler des étudiants de plusieurs écoles autour d'un projet. Pascal Martin en a été l'une des fers de lance, enfin un des enseignants référents du projet. Donc c'est une expérience collaborative dans la formation, parce qu'il nous paraît qu'en France, les cursus sont encore un peu séparés entre design, métier d'art, etc. Alors que dans d'autres pays, dans les Pays-Bas, dans les pays anglo-saxons, c'est comme certains ont pu l'entendre, je crois, au mois de mars dernier, à propos du St. Martin's College, tout ça est beaucoup plus intégré. Alors, d'expérience collaborative, il y en a qui sont ponctuelles, c'est-à-dire ces fameux Fab Labs, hein, il y en a quelques-uns, dont on vous parlera. Généralement, ce sont des expériences collaboratives sur projet. Maintenant, il y a quelques expériences collaboratives physiques, c'est-à-dire des artisans d'art qui sont présents dans un même espace et qui bénéficient d'un réseau de proximité. Enfin, ils peuvent se voir l'un l'autre, ils sont de différents métiers. Et généralement, ils disposent aussi d'un centre de ressources mutualisé. C'est le cas à Pantin, près d'ici. Hein, la ville de Pantin a fait, il y a quelques années, a accueilli des artisans d'art pour... dans le cadre d'un projet urbain, hein, pour redensifier le centre-ville et en même temps à créer une maison qui permet à ces artisans d'art de se retrouver, de bénéficier de formation, de bénéficier de ressources communes. Et ça, c'est une expérience dans la continuité. Dans le Pas-de-Calais, vous avez aussi Devres, D-E-S-V-R-E-S, qui est un espace où plusieurs artisans vivent. Il y a sur Rennes un projet de la même veine, j'allais dire, une espèce d'hôtel d'entreprise métier d'art, On sait qu'il y a des grands groupes privés qui veulent créer dans plusieurs régions de France des villages de marques de très haut niveau, de marques internationales, et ils veulent y associer des artisans d'art, comme faire valoir aussi. Donc, en France, mais peut-être vous avez des expériences ailleurs en Europe. Ça reste aussi à inventer, hein, le co-working, par exemple.
Bon, en fait, ça sera le thème quand même du prochain rendez-vous. Rendez-vous, pas conférence. Pardon.
Ce sera le thème précisément du prochain rendez-vous de l'INMA en ouverture de la Biennale des métiers d'art et du design de Pantin, donc au Centre national de la danse, le 10 octobre, après-midi, sur les nouveaux artisans, avec un Y, artisans, c'est-à-dire la génération hybride, et tout ce mouvement hybride dans la production, dans les modes de production, de faire et créer et travailler ensemble. Et précisément, il y a des collectifs qui sont à l'œuvre, des Fab Labs, évidemment, et tout ça sera présenté. Voilà, avec des intervenants, des acteurs de cet écosystème.
Oui, ce sont les acteurs de terrain qui viendront présenter le vendredi, donc 10 octobre à 14h, au Centre national de la danse, à Pantin. Je ne sais pas quel est le métro, mais vous trouverez. Et donc, c'est ça, de 14 à 16h30, en gros. Et vous aurez des professionnels des métiers d'art, j'allais dire artisans d'art, mais Serge Nicole est parti, donc qui viendront présenter leur mode de travail en commun, ensemble.
C'est dans le cadre de la Biennale de Pantin.
De Pantin, hein, Biennale des métiers d'art et de la création.
J'étais très interpellée par l'exemple de l'artisan verrier qui a répondu à une commande d'un hôpital en Grande-Bretagne. Est-ce qu'il y a des cas comme ça, des croisements entre des savoir-faire métiers d'art et l'application scientifique, des besoins scientifiques ou des connaissances scientifiques? Est-ce que les sujets...
Moi, je n'ai pas insisté parce que c'est plutôt des entreprises maintenant. Mais il doit y avoir d'autres cas.
Il y a des centres de formation des entreprises traditionnelles et des nouvelles entreprises qui travaillent ensemble pour répondre à des nouveaux besoins comme celui-ci et qui travaillent dans les hôpitaux. Par exemple, les propriétés de la porcelaine sont très utilisées pour la reproduction des os ou des choses comme ça. Et dans l'aéronautique aussi, des éléments des avions et tout ça sont produites grâce à ces matériaux. Donc, il y a des expériences de ce type.
D'accord, mais ça reste marginal.
Dans le champ médical, dans l'aérospatial, dans la construction, par exemple, la canopée des halles, hein, ça a été fait avec un maître d'art verrier qui a fait un début de prototype. C'est vrai que Saint-Gobain ne pouvait pas produire les verres des vitraux dessinés par Soulages. Impossible. Donc c'est un maître d'art qui a trouvé. Un bombeur de verre, on en parlait à midi, dans le 3e arrondissement, fait les pare-brises, prototypes de pare-brises de Peugeot et Renault, faisait, et Mercedes. Vous voyez, l'industrie automobile, l'aéronautique, la recherche médicale, oui. Il y a peut-être dans les nouveaux textiles aussi. Hein, il y a eu l'expo... à Lille et puis à la Villette sur Futuro Textile. Il y a le centre de recherche sur les textiles de Roubaix et eux travaillent avec des artisans d'art textile. Et ça irrigue l'industrie. Mais bon.
Il y a une entreprise en France qui s'est spécialisée sur ça. Il y a une entreprise en France qui s'est spécialisée. Il y a, je crois que c'est un ingénieur et un... Et un diplômé d'une grande école de commerce qui se sont associés pour justement répondre, c'est vraiment un marché de niche, hein, ils ont réuni des compagnons qui travaillent le bois, le verre, différents matériaux, le métal, pour répondre aux demandes des industries, quelles qu'elles soient, automobiles,
satellites, enfin toute demande, qui ne savent pas comment faire un prototype parce qu'ils ne sont pas équipés pour. Donc font appel à cette entreprise et qui, grâce à ses compagnons qui maîtrisent des techniques très pointues sur un matériau, vont l'appliquer sur d'autres matériaux pour trouver des solutions innovantes à proposer à l'industrie. Donc ils sont spécialisés vraiment dans le prototypage de l'industrie. C'est-à-dire qu'ils vendent très cher des prototypes, qui mobilisent des savoir-faire très pointus et parfois déplacés sur d'autres matériaux.
À moins que Pascal, tu aies d'autres expériences de... Non, bon. Voilà, ben, il nous reste à vous remercier beaucoup et à remercier Xavier Greff et Francesca.